Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour le fait que les artistes sur toutes les plateformes auxquelles ils ont droit puissent librement exprimer leurs pensées. On a le droit par contre de trouver qu'il y a certaines affaires qui n'ont pas d'allure, on a le droit de le dire, on a le droit de critiquer, ça ne veut pas dire qu'on demande à ces artistes-là de se taire ou qu'on brime leur liberté d'expression. Je vais vous parler de la comédienne Nadia Essadiki. Quand elle est musicienne, elle travaille sous le nom de plume La Bronze. Mais bref, Nadia Essadiki, qui joue dans la série Doutes raisonnables présentée à Radio-Canada, elle joue le rôle d'une policière dans cette série-là. Et elle a mis sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en costume de policière, évidemment, puisque c'est le rôle qu'elle joue dans cette série-là. Et sur la photo d'elle dans la série, comme policière, elle a inscrit sur sa photo les quatre lettres suivantes ACAB. C'est un acronyme très populaire aux États-Unis ou dans le monde anglophone. ACAB, c'est un diminutif pour l'expression « All cops are bastards ». Tous les policiers sont des salauds. Alors, je comprends que Madame Essadiki veut se revendiquer de ce mouvement-là. Peut-être qu'elle pense en effet que tous les policiers sont des salauds, mais d'associer ces lettres-là avec une photo d'elle en train de jouer le rôle d'un policier, ça envoie un drôle de message, parce que pour préparer cette série-là, il y a différents comédiens, des gens de la production qui sont allés passer du temps avec des policiers, des vrais policiers qui travaillent sur le terrain. Donc, d'aller affirmer haut et fort qu'elle pense, elle, comme comédienne, que tous les policiers sont des salauds, je trouve ça assez particulier, quand même. Donc, elle a retiré sa publication. Radio-Canada et les producteurs de la série se sont dissociés des propos de la comédienne, tout en reconnaissant qu'elle avait parfaitement le droit d'exprimer ce qu'elle voulait. Il reste quand même que, je veux dire, on nous dit, il faut pas faire d'amalgame, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde. Ce genre d'affirmation-là, générale, j'ai toujours un problème avec ça. Comment ça? Tous les policiers sont des salauds. C'est comme dire tous les avocats sont des incompétents. C'est comme si moi je disais tous les comédiens ont pas de cerveau puis tous les comédiennes ont pas de cervelle. Quand j'ai vu cette publication de Nadia Essadiki, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez vu le film, le documentaire « La parfaite victime », vous êtes peut-être ressorti du visionnement avec l'impression que pour obtenir une condamnation pour un agresseur sexuel au Québec, il fallait se comporter comme une victime parfaite. Vous êtes peut-être ressorti aussi de ce documentaire avec l'impression que, ben, au Québec, pour la majorité des gens s'en tirent sans condamnation, que tout le monde se fait acquitter, puis que le système de justice est tout croche. Ben, les chiffres sur le terrain tendent à montrer une réalité pas mal différente de ce que laisse entendre le film La parfaite victime. Et j'en veux pour preuve des chiffres qui viennent d'être colligés par maître Véronique Robert, des chiffres pour 2021. Ça fait 4 ans qu'elle se livre à cet exercice. Elle recense les décisions de la Cour du Québec sur la culpabilité ou l'innocence d'accusés d'agression sexuelle. Elle est au bout de la ligne. Maître Robert, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Bonjour, écoutez, j'ai trouvé très intéressant cette publication que vous avez faite sur les médias sociaux, sur votre blog, où vous nous racontez que vous avez recensé, donc, dans les décisions de la Cour du Québec, les condamnations en 2021. À quelle conclusion vous êtes arrivée?
Ça donne, je pense, j'ai pas mon texte sous les yeux, mais je vais le trouver pendant qu'on se parle. Ça donne sur 44 jugements.
42?
38,
oui.
Condamnations. Vous les avez sous les yeux?
Oui, je l'ai sous les yeux. Alors, je vais vous aider. Sur 42 jugements répertoriés, 34 condamnations et 8 acquittements.
Voilà, donc 34 condamnations, 8 acquittements, et ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu les autres années, dans l'exercice que j'ai fait, là, qui était le même exactement, qui est pas très scientifique, évidemment, je dois le dire, c'est moi qui lis les jugements de la Cour du Québec seulement. Je ne lis pas les jugements qui concernent des délinquants juvéniles, donc uniquement des adultes. Et je trouve que chaque année, ça ressemble pas mal à ça. Et je vous dirais que ça ressemble aussi à ce qu'on vit, nous, et à ce qu'on voit sur le terrain.
Voilà.
On a toujours tendance à dire, c'est pas facile d'être acquitté dans un dossier d'agression sexuelle.
Alors, c'est important, voilà, cette phrase que vous venez de prononcer.
C'est ce qui se fait et c'est ce qui se vit dans les palais de justice. Alors, l'impression qu'on nous donne là, dans le public, depuis la parfaite victime, bien sûr, mais avant aussi, est pas exact.
D'accord. Alors, la raison pour laquelle j'ai mentionné le documentaire La parfaite victime, c'est que ce documentaire-là a été fait, donc, par Monique Néron et Émilie Perrault, par les suites, en fait, de l'affaire Rozon, parce que beaucoup de gens disaient, bon, ben, on a l'impression que pour obtenir une condamnation, il faut avoir un dossier impeccable, il faut se comporter comme victime présumée, comme plaignante, il faut se comporter de façon exemplaire. Il ne faut jamais dire un mot de travers parce que sinon, on n'obtiendra pas la condamnation. Ce qui est intéressant dans l'exercice que vous avez fait, c'est que vous êtes allé voir donc chacun des jugements et vous avez extrait de ces jugements-là différentes déclarations de la part du juge, et ça tend à démontrer au contraire qu'on ne demande pas aux victimes d'avoir un comportement parfait. C'est ça qui est fascinant.
Mais non, pas du tout. Et dans la victime parfaite, les avocats de défense qui ont été interrogés ont donné aussi cette impression-là qui est complètement inexacte. C'est évident qu'une victime, bon, d'abord, si les événements sont produits des années auparavant, c'est évident que la mémoire sera pas parfaite. Si la plaignante a donné de nombreuses déclarations, c'est évident qu'il va y avoir quelques contradictions. Les juges vont pas acquitter une personne simplement parce que le témoin principal, hein, on sait au Québec, au Canada, la plaignante en matière d'agression sexuelle, c'est comme un témoin, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'embaucher un avocat, c'est pas quelqu'un qui doit mener sa cause, là, elle est soutenue par la poursuite, par le directeur des poursuites pénales, la cause de la plaignante, et cette plaignante-là n'a pas à être parfaite, et ça n'existe pas, et vous avez vu peut-être le juge Sébastien Proulx de Québec, justement, dit à un moment donné... Il n'y a pas de témoin ou de témoignage parfait. Alors,
oui.
J'ai trouvé ça un peu ironique parce qu'évidemment, son jugement est avant la sortie du film, mais il explique, lui, en une simple phrase, que c'est pas vrai, qu'on n'a pas de victime parfaite, on n'a pas de témoin parfait dans un dossier. C'est dommage parce que ce sont des vieux mythes qu'on a tendance à réactualiser depuis quelques années. Les questions, par exemple, qu'on fait croire aux femmes, parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on décourage les femmes à porter plainte à ce moment-là, alors qu'on le fait supposément en disant les femmes n'osent pas porter plainte, mais ce qu'on fait en perpétuant des vieux mythes qui n'existent plus, c'est de les décourager à le faire. Donc, bon, par exemple, le fait qu'un témoignage d'une plaignante en matière d'agression sexuelle doit toujours être corroboré, c'est faux. C'était comme ça avant, mais ça, c'est plus comme ça. Le fait qu'on peut lui poser des questions sur son comportement sexuel ou son passé sexuel, c'est complètement faux. Alors, c'est des vieux mythes. Ça existait avant. Ça n'existe plus depuis 83, en fait. Et au Canada, là, ailleurs, ça peut être différent. Au Canada, ça n'existe plus depuis 83 parce que on dit que c'est des mythes et c'est des stéréotypes et qu'on ne peut pas présumer de la réaction d'une victime d'agression sexuelle. Par exemple, la plainte spontanée, là, l'exigence de plainte spontanée qui existait avant. Aujourd'hui, une victime d'agression sexuelle peut porter plainte 30 ans plus tard. On n'a pas de prescription pour les crimes au Canada. Alors, ce sont des vieux mythes, puis on les réactualise. C'est dommage, en fait.
Oui, c'est dommage, d'autant plus que c'est pour ça que votre poste sur droit criminel Blogspot est très important, c'est que vous, en allant chercher des extraits, vous nous montrez justement à quel point le système de justice a évolué. Je prends par exemple le juge de Lille en janvier 2021 dans une cause d'agression sexuelle, la victime, la plaignante, n'a pas quitté les lieux au moment où on lui fait des attouchements et donc la défense utilise ça d'une certaine façon. Le juge dit, on ne peut pas utiliser ce raisonnement-là parce qu'il repose sur des mythes et stéréotypes à l'égard de la façon dont devrait se comporter une victime d'agression sexuelle. Donc, le juge même, lui, dit, à l'avocat de la défense. On ne peut pas utiliser ce raisonnement-là. Dans le système de justice actuel, on ne se sert plus des mythes et stéréotypes. Donc, puis là, on est en janvier 2021, là, bien avant que le film sorte. C'est fascinant
oui,
à lire.
Oui, c'est ce que font et c'est ce que disent les juges, alors qu'on n'a pas de tribunal spécialisé, dont je doute de l'utilité d'ailleurs. Et ce sont c'est des juges de la Cour du Québec. Là. C'est des juges de la Cour du Québec. C'est pas des juges d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Et ils sont très au fait du droit canadien qui les interdit d'utiliser et d'emprunter des mythes et des stéréotypes. Est-ce qu'il y a des juges qui font parfois des erreurs? Sans doute. On le voit d'ailleurs dans le film La parfaite victime, le juge Camp là, de l'Alberta, qui d'ailleurs fait une belle démarche après là, sur lui-même puis qui devient quelqu'un qui a bien compris. Mais bon, ça c'est quelqu'un qui a vraiment fait une erreur. Si vous lisez aussi dans le texte, sur mon blog, la juge Alexandra Marcille va jusqu'à dire, écoutez, la personne est semi-consciente, elle est en train de vomir. Alors, même s'il y a des gémissements, et même si quelqu'un a entendu des gémissements qui pouvaient s'apparenter à des gémissements, entre guillemets, érotiques, là, ben, ça veut pas dire qu'elle était consentante. Écoutez, elle est demi-consciente. Alors, venez pas me parler de ses gémissements. Ça aussi, c'est un mythe et stéréotype. C'est de présumer comment elle devrait réagir, alors que, bon, dans ce cas-là, la dame, évidemment, est à demi-consciente. T'sais, pour nous, c'est peut-être évident, là, qu'elle consent pas, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a mené cette cause-là, parce que, bon, ça s'est retrouvé devant les tribunaux et on a plaidé. Ben, madame gémissait. Oui, elle gémissait, mais vous missez aussi.
Et c'est important de citer la juge Alexandra Marcille dans le texte, comme vous le faites, parce qu'elle dit spécifiquement « L'absence de manifestation de détresse relève du stéréotype et n'est pas déterminant. » Donc, encore une fois, on a un juge, une juge dans ce cas-ci, qui dit « Non. On n'a pas le droit d'avoir recours à des mythes et des stéréotypes. » Donc, la justice prend la justice, justement, écarte tout ce qui est mythe et stéréotype dans une cause. Donc, pourquoi on n'a pas plus mis la lumière sur ces différents jugements-là dans le film La parfaite victime? Je veux juste revenir très brièvement, mais c'est extrêmement important, sur ce que vous venez de nous dire, Maître Robert, parce que bon, toute cette discussion-là, en fait, amenée, pas juste le film, mais toute cette discussion-là a mené à la mise sur pied annoncée par le ministre Jolin Barrette de tribunaux spécialisés. Vous venez de nous dire que, selon vous, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi, Maître Robert?
Mais on en parlait déjà avant le film, mais c'est sûr que j'ai l'impression que ça a un peu précipité les choses. On s'est un peu activé pour le faire. Pourquoi ça va pas changer grand-chose? Parce que je pense qu'on a déjà des tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle. Bon, moi, je pratique plus à Montréal qu'à Québec, mais je peux vous dire qu'à Montréal, l'équipe de procureurs de la poursuite, ce sont des procureurs qui sont spécialisés en matière d'agression sexuelle. Les juges ont des formations. Ils ont des formations sur ce sujet-là. Et si on sort de Montréal et de Québec et qu'on arrive en région, écoutez, il y a deux juges. On arrive à Thetford Mine, par exemple, là, il y a un juge ou deux qui sont des juges de Québec qui sont amenés là pour faire le droit criminel. Ils peuvent pas être spécialisés et être à la fois les deux seuls juges. J'ai l'impression que ça pourra pas s'appliquer à moins qu'on déplace toutes les causes d'agression sexuelle dans une autre ville, ce qui est contraire à ce qu'on veut du droit. Les choses sont censées se produire au lieu où les faits ont eu lieu, mais aussi c'est que ça va engendrer des coûts de déplacement. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on veut faire, là, un seul tribunal là, dans une région, mais en région, ce sera pas possible. Je vous dis, je donne l'exemple de Thetford Mine parce que j'y ai travaillé dernièrement. Ben, il y a deux juges qui font du droit criminel et ils sont pas là tout le temps et ils viennent, et pour une cause longue, ils font venir un juge de Québec pour faire seulement cause-là. Alors, ça va se concrétiser comment, ça, un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle? Je pense que c'est pas possible. Puis, pour les deux grandes villes, ben, c'est que ça existe déjà, selon moi. C'est mon opinion. À la fois chez les policiers et chez les procureurs de la Couronne, les gens sont spécialisés. Il y a le bureau de la CAVAC. Les plaignantes sont jamais assises toutes seules dans le corridor, comme on voit dans le film. Elles sont très, très, très accompagnées. Puis, je vous dis, il y a un étage au Palais de justice de Montréal où il y a juste ça.
Ça, c'est très important, le point que vous venez d'émettre. Et surtout, je dirais, au-delà de tout ça, c'est le message qu'on envoie aux plaignants et aux plaignantes, donc aux victimes. Si on n'arrête pas de leur répéter, ça donne rien d'aller voir le système de justice parce que le système de justice prendra pas soin de vous. Ça donne rien de porter plainte parce que de toute façon, tout ce monde-là va être acquitté. On leur envoie le message que ça ne vaut pas la peine. Or, ce que vous démontrez, même si votre méthode n'est pas scientifique, il reste qu'elle est rigoureuse, excuses et que vous êtes allé voir les jugements. Et quand on arrive avec les chiffres pour 2021, 42 jugements, 34 condamnations, 8 acquittements, c'est important de prendre connaissance de ces chiffres-là.
Raison, c'est ce qu'on voit dans la pratique et je voudrais rajouter à ce que vous avez dit, on dit aussi aux femmes que leur plainte ne sera pas retenue. Et dans le film La parfaite victime, bon, là on en parle beaucoup, mais coudonc, ça fait partie de notre actualité là. Et dans le film La parfaite victime, d'ailleurs, on a interviewé une procureure de la couronne qui s'appelle Nadine Aviernik en lui disant, mais seulement 20% des plaintes sont autorisées, ou 18 ou 17, je me souviens plus, mais c'était dans ces eaux-là. Elle a l'air très surprise, elle a l'air mal à l'aise, elle prend un verre d'eau. On la fait un peu passer pour quelqu'un qui connaît pas son affaire, alors qu'elle n'était pas prête visiblement à recevoir cette question-là, parce que si elle l'avait été prête, c'est qu'elle aurait consulté ses boss, elle aurait consulté ses collègues, ils auraient fait des recherches, et finalement, ils ont fait ces recherches-là, et c'est 80% des plaintes qui sont autorisées.
Absolument.
On sait pas d'où sort le 20%, puis on sait pas pourquoi on distribue cette information-là qui est fausse, mais qui est complètement fausse. 80 puis 20, c'est pas du tout la même chose. Donc,
ben c'est l'inverse. Alors, on va devoir se quitter là-dessus, malheureusement.
D'accord.
Mais donc, je rappelle les chiffres. 2021, selon les chiffres que vous avez colligés, 42 jugements, 34 condamnations, 8 acquittements. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit se concentrer et surtout envoyer le message aux victimes. Portez plainte, ça vaut la peine. Et oui, vous allez pouvoir obtenir justice. Le système n'est pas parfait, mais il fonctionne. Merci beaucoup, Maître Robert.
Ça veut pas dire non plus qu'il y a un déni de justice. Ça existe des personnes innocentes. C'est important de le dire.
Mais totalement. Puis je suis très contente que vous ayez rajouté ça. Vous avez tout à fait raison de le dire. Parce que sinon, à ce moment-là, pourquoi avoir un système de justice? On a juste à dire, bon, ça. Ben là, tout le monde est coupable. Tout le monde en prison. Ah oui, donc. C'est pas ça qu'on veut.
Dès qu'il y a une plainte.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Maître Véronique Robert, donc avocate en droit criminel. Merci beaucoup.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Il a perdu son titre d'Altesse Royale, il a perdu aussi ses titres militaires. On parle bien sûr du prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre. Et ça fait beaucoup réagir Marie-Claude Barrette, qui est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Effectivement, tu sais, quand il y a eu toute l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris que le prince Andrew, disons qu'il avait des mœurs assez légères là, tu sais, des mœurs inquiétantes. Et par la suite, ben on en a parlé de plus en plus. Ensuite de ça, il y a eu le procès de Ghislaine Maxwell, qui était la conjointe de Jeffrey Epstein, qui vient de se terminer. Puis faut bien dire que Jeffrey Epstein a été arrêté, a été emprisonné. Il y a eu un procès et la première journée de son procès, on l'a trouvé mort dans sa cellule parce que je pense qu'il y avait beaucoup de secrets. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent est-ce que c'est un suicide ou pas.
Voilà.
C'est pas clair encore. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme-là avait mis en place un... en fait, Ghislaine Maxwell, sa conjointe, allait recruter des jeunes filles mineures. Et lui, ben, il avait des relations sexuelles avec ces jeunes femmes-là, mais aussi, il les prêtait. Tu sais, c'est vraiment ça devenait pratiquement
comme
des
une marchandise.
Sexuelles.
Oui,
exactement.
Comme une marchandise, là. Ouais.
Et il y avait une île, et sur cette île-là, il amenait ses amis, et il amenait aussi ces jeunes femmes-là qui étaient pratiquement prisonnières de cette île-là, parce que dans le documentaire sur Jeffrey Epstein, il y en a une qui dit « ben moi, j'ai voulu me sauver ». Finalement, il y avait des caméras partout, il y avait rien à faire, tu sais, quand elle a compris qu'elle allait devoir pratiquement se faire abuser à chaque soir, cette jeune fille-là a s'est sentie mal. Alors, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on sait que le prince Andrew s'est retrouvé aussi sur cette île-là. On sait aussi qu'il y avait Virginia Giuffre, qui a 38 ans maintenant, qui avait 17 ans à l'époque. Et elle était comme la favorite du couple de Ghislaine et de Jeffrey. Et ils l'ont prêté aussi au prince Andrew. Ils lui ont permis de la rencontrer. Il y a des photos entre lui et Virginia quand elle avait 17 ans. Et elle l'a accusé d'agression sexuelle. Il a tout fait pour ne pas avoir de procès. Il pensait ne pas avoir de procès. Et finalement, on vient d'annoncer qu'il pourra avoir un procès aux États-Unis, un procès au civil où il est accusé d'agression sexuelle. Et là, on peut imaginer, c'est un membre de la royauté. Puis comme tu dis, il a perdu ses titres militaires, entre autres. Et c'est Sophie, dans toute cette histoire-là, c'est sa mère qui a approuvé, c'est la reine d'Angleterre,
c'est fou, hein?
Avec ses fonctions, qui a dû approuver qu'on enlève les titres militaires à son fils. Et aussi, il a perdu aussi son titre, on ne l'appelle plus Altesse royale, c'est fini pour lui cette appellation-là. Alors, c'est toute une histoire, tu sais, puis il a nié aussi en pleine télé. Il a dit il y a quelques années qu'il n'avait jamais rencontré cette jeune fille-là.
Oui, c'est une entrevue. Mm-hmm. C'était une entrevue à la BBC, donc la télévision publique britannique, puis c'était absolument hallucinant. Premièrement, il a fait toutes sortes de déclarations bizarres en disant la fameuse jeune fille disait qu'il transpirait beaucoup. Lui, il a dit non, moi je transpire jamais. Après ça, il dit je l'ai jamais rencontré, alors qu'il y a des photos quand même le montrant avec cette jeune fille-là qui avait 17 ans à l'époque. Et donc, tout le monde a trouvé que cette entrevue-là à la BBC, c'était très mal préparé, c'était très gênant. Et tu parlais tout à l'heure du fait que c'est la reine elle-même. On a beau être reine, il reste quand même que le geste de dire tu dois déposséder ton enfant sur la place publique de sa raison d'existence, en fait, ses titres royaux, ses titres militaires, ça a dû quand même être un moment assez dramatique pour elle.
Absolument. Puis tu sais, c'est honteux aussi, là, ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est d'une gravité extrême. Et tu sais, puis la reine a aussi annoncé qu'elle ne financera pas les droits d'avocat de son garçon. Donc, en tant que reine, mais en tant que mère, tu sais, comme tu dis, elle porte les deux chapeaux. Et oui. Est-ce qu'il y aura un procès ou pas? Tu sais, parce que la Virginia, qui a 30 ans aujourd'hui, disait, on dit qu'elle pourrait accepter, bon, parce que lui, tout le monde disait, mais elle va accepter de l'argent, mais elle dit, ça sera, si j'accepte de l'argent, ça ne suffira pas. Tu sais, il faudra qu'il avoue avoir fait ça. Alors, c'est une grosse histoire, là, tu sais, qui se passe, puis. Puis aussi, tu sais, le Epstein, tout ce qu'il a fait, tu sais, tout est révoltant dans toute source de cette histoire-là.
Écoute, le documentaire dont tu parlais tout à l'heure sur Jeffrey Epstein, qui s'appelle Filthy Rich, et si vous l'avez pas encore vu, je recommande vraiment à tout le monde de le voir. Ça donne envie de vomir la façon dont le modus operandi de cette femme-là qui tissait une toile d'araignée autour des jeunes filles, l'esclavagisme sexuel, l'exploitation, l'avion de Jeffrey Epstein qui s'appelait le Lolita Express. Écoute, tous ces détails-là donnent froid dans le dos.
Ben, c'est épouvantable. Tu sais, tantôt, ce que je racontais, il y a une fille qui allait, c'était une massothérapeute qui allait lui faire des massages. Puis à un moment donné, il dit, écoute, on t'invite dans les îles Vierges britanniques, on a une île à nous. Elle est toute contente, elle s'en va sur l'île britannique, puis aux îles Vierges. Mais elle a jamais eu, là, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Tu sais, elle était massothérapeute. Mais quand elle est arrivée là, elle a compris que là, c'était à un autre niveau, que c'était, elle était plus la massothérapeute, mais elle devenait une esclave sexuelle. Et c'est elle qui raconte qu'elle est partie pieds nus de sa chambre en courant pour se sauver parce qu'elle voulait rien savoir de ça. Et là, il y a des caméras qui se sont braquées sur elle et tout de suite sont allées la chercher. Tu sais, quand elle raconte ça, c'est un film d'horreur, là. Et la Virginia Giuffre, celle là, qui poursuit le prince Andrew, elle s'est exilée en Australie pour les fuir.
Oui.
Elle s'est exilée toute jeune, elle s'est cachée là-bas. Donc, c'est des gens qui ont ruiné des vies. Et il y a aussi un documentaire sur Ghislaine Maxwell. Et on voit, tu sais, c'est terrible quand ces deux-là se sont rencontrés à New York, à quel point c'est devenu comme des démons, tu sais, à quel point la perversité de ces deux-là ensemble a affecté des gens. Puis il y a eu beaucoup de clémence autour d'eux. Alors là, tu sais, de voir que le prince, moi j'espérais qu'il y ait son procès parce que comme il l'a contesté, on disait il y aura une exemption et il n'y en a pas. Donc si elle continue de le poursuivre, s'il n'y a pas d'entente hors cours, ben il y a des bonnes chances qu'ils doivent témoigner et qu'il sera peut-être accusé en fait, mais Mais je trouve qu'au moins, il y a comme une justice pour tout le monde et c'est rassurant. Parce que sinon, c'est encore plus révoltant parce que, écoute, ce qu'il a fait, le prince Andrew, peut bien être prince, là, mais ça n'a aucun sens.
Oui. Puis c'est important quand tu dis il a beau être prince, moi de toute façon, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais moi la monarchie, là, toutes les affaires de titres, puis de son altesse de ci, puis son altesse de ça, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ce gars-là? Il a le rôle qu'il a, il a l'importance qu'il a, il a la fortune qu'il a, juste à cause du sang qui coule dans ses veines. Moi je n'ai jamais compris, j'ai jamais eu le moindre respect pour la monarchie. Je veux dire, moi je crois que tu deviens quelque chose dans la vie grâce à tes actions, grâce à ton travail acharné, pas parce que t'es le fils de ou parce que t'es la fille de. Je veux dire, à la rigueur, j'ai plus de respect pour la reine parce que justement, elle a été présente pour le peuple britannique à des moments clés, parce que c'est une femme qui a su prendre des bonnes décisions au bon moment. Mais je veux dire, tous les autres là, je veux dire, moi, j'en ai rien à cirer d'eux. Je veux dire, t'es là parce que on s'intéresse à toi juste parce que cause de qui était maman, là.
Absolument. C'était cute dans Sissi, là, tu sais, d'avoir des titres de noblesse, tu sais. Mais maintenant, tu sais, quand on regarde ça en 2022, il y a quelque chose qui a aucun. On dirait que c'est un anachronisme dans le paysage. Puis, tu parlais de la reine qui est là depuis des années. En juin, ce sera des festivités pour fêter ses 70 ans sur le trône. Cette femme-là, quand même, a eu une assiduité. Elle est remarquable, la reine. Tu sais, quand on regarde, puis en même temps, tu te dis probablement que, tu sais, elle peut juste donner le titre de roi ou de reine à un de ses enfants. Puis si elle l'a pas fait, ça veut dire aussi beaucoup. Si elle l'a pas fait rendu à son âge avancé, c'est parce qu'elle voit qu'elle a pas de relève non plus, là. Puis le prince Andrew en était certainement pas une.
Oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, en toute logique, ce serait le prince Charles. Si le prince Charles décède, après, c'est... Je me souviens même plus de leur nom. Là. Je sais qu'il y en a un, c'est
mais
William.
Mais le prince Charles, s'il l'a pas eu déjà, on s'entend.
Ben voilà.
Parce qu'elle est pas sûre qu'il serait capable de porter ces chaussures-là, tu sais. C'est pour ça qu'on pense plus à son fils, au prince Charles, qu'à lui. Mais il reste que t'as raison, tu sais. Ces titres-là, maintenant, c'est d'appeler cet homme-là mon Altesse royale, alors qu'il a abusé, sexuellement au moins d'une jeune femme. Regarde, je pense que ça va probablement être un coup de barre dans la royauté. Tu sais, ça doit être terrible à vivre pour la reine aussi de voir ça de son vivant. Mais c'est déjà le divorce de Charles et de Diana avait fait quelque chose dans ça allait contre les traditions de la vie royale. Je me souviens, ça avait été toute une affaire, le divorce. Écoute, c'était un divorce, là. Alors là, on peut penser à une agression sexuelle. On n'est pas du tout dans la même catégorie, là.
Non, mais tout à fait. Mais aussi, quand il y avait eu, justement, toute l'affaire de Lady Di, il y a plein de gens qui disaient, ben, je veux dire, la façon dont la couronne se comportait, je veux dire, avec ses règlements d'une autre époque, d'un autre siècle, c'est une espèce de tu sais, tout les protocoles que quand il y a quelqu'un, un membre de la royauté qui rentre dans une pièce, qu'il faut, tu sais, faire la révérence, puis tout ça, tu dis, mais c'est complètement disjoncté, là, je veux dire, vous rendez-vous compte, vous vivez comme un autre siècle, c'est des règles étouffantes, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, je veux dire, c'est complètement ridicule.
Alors, puis on se souviendra qu'on n'a pas le droit de toucher à la reine aussi. On n'a pas le droit de lui toucher.
Écoute, c'est un être humain comme tous les autres, là, je veux dire, elle mange trois fois par jour, puis elle va à la toilette comme tout le monde, là, je veux dire, cette espèce de révérence, là, devant la royauté, moi, personnellement, ça m'horripile, et je pense qu'on est en train de voir, justement, les failles et les limites, aussi, du respect qu'on doit à la monarchie, juste parce qu'ils ont supposément du sang noble. Il n'y a pas beaucoup de nobilité, de noblesse, pardon, je viens d'utiliser une sorte d'anglicisme, il n'y a pas beaucoup de noblesse chez le prince Andrew, ça c'est clair. En tout cas, on ne l'appellera plus jamais son Altesse royale. Marie-Claude, il faut absolument revenir sur cette espèce de semaine complètement folle qu'on vient de traverser. C'est fou pareil, hein?
Ben, moi, c'est une semaine au niveau de l'actualité où il y a eu beaucoup de choses, puis des choses importantes, des choses qui n'ont pas d'impact sur nos vies, mais des choses qui ont des impacts, tu sais. les statuts de Kevin, ça n'a pas d'impact sur nos vies, mais on n'en revient toujours pas que ce gars-là, qui était lui qui a organisé l'événement de Sunwing, l'avion de Nolizé, a comme son quartier maintenant avec des statues dans ses maisons. Tu sais, je veux dire, on découvre comme un être, on dirait que c'est pas possible, là, tu sais, que ça se passe au Québec. On dirait un film. Fait que bon, lui, il a été comme une trame de fond, un genre de divertissement, mais en même temps, avec, on a tous des grands yeux, ben voyons donc. Mais je pense qu'on a commencé quand même la semaine avec quelque chose qui nous a marqué, c'est la démission d'Horacio Arruda. Ça a été un gros coup, là, tu sais, je veux dire, moi, je m'attendais pas à ce qu'il démissionne à ce moment-ci. Donc, tu sais, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est une parce qu'il s'entendait pas avec M. Legault? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça arrive à ce moment-ci? Mais il reste qu'il y a quand même, tu sais, je trouve qu'il faut quand même dire qu'il a été là dans des moments de crise comme on n'en avait jamais connu au Québec. On savait pas vraiment qui était Horacio Arruda sur la place publique avant cette crise-là, et finalement tout le monde le connaît. Il a été un acteur important pendant presque 2 ans. Donc je trouve une annonce importante là, moi dans la semaine.
Il y a une chose qui me frappe par contre, c'est que depuis qu'il a démissionné, tout le monde est là à lui trouver toutes sortes de qualités, puis dire bon, et à quel point en effet il a navigué à l'aveugle, puis c'était pas évident, puis tout ça. Mais il faut quand même se rappeler la raison pour laquelle il démissionne et la raison pour laquelle les gens l'ont autant critiqué, c'est parce que il a pris des mauvaises décisions. Il a pris des mauvaises décisions et il a, moi, je trouve le gros problème de Dr. Arruda, c'est que je trouve que c'est un piètre communicateur. Quelqu'un, quand il était dans les différentes rencontres de conférences de presse, on ne comprenait pas grand-chose à ses explications, alors que c'était vraiment crucial de pouvoir envoyer un message clair aux Québécois. On comprenait pas, puis des fois quand tu regardais le résumé de ce qu'il disait, fallait que les journalistes remplissent les trous parce que c'était pas clair ce qu'il disait. C'était un mauvais communicateur, Dr. Arruda.
Ouais, t'as raison, parce que c'est souvent même on comprenait ce que Monsieur Legault disait au Monsieur Dubé, puis là quand il le vulgarisait, on comprenait plus trop. On savait plus trop, c'est-tu 3, c'est-tu 4-2, c'est-tu le... Tu sais, on était...
Oui.
Moi, tu vois, ce que j'y avais reproché en premier en Horacio Arruda, c'est les masques. Puis là, on retombe dans le premier confinement où oui. Il y avait beaucoup de journalistes qui disaient « Mais pourquoi on nous donne pas des masques? » Puis ils disaient « Non, mais les masques... » Tu sais, ils n'étaient pas pour le port du masque, alors que l'Organisation mondiale de la santé disait déjà qu'il fallait s'équiper en masques, puis qu'il fallait en offrir à la population. Parce que dans n'importe quelle épidémie, peu importe, le masque est une protection, forcément, tu sais. Et moi, c'était la première affaire. Puis après ça, ben il y a eu plein de choses où on sait pas trop si de quel bord il était, tu sais, avec aussi l'aération dans les écoles. Tu sais, il y avait des choses qu'on entendait de certains infectiologues qu'on disait, mais on aurait aimé ça, l'entente de la santé publique aussi.
Voilà.
Tu sais, alors, c'est sûr qu'il y a eu des raisons, mais disons que, tu sais, j'imagine dans ta carrière, quand tu es directeur général de la santé publique, tu t'attends probablement pas à vivre une crise qui dure aussi longtemps, tu sais, qui est aussi forte que tu es devant toute la population presque à chaque jour. Mais on peut comprendre pourquoi il est parti. Moi, je pense que ça a soulagé beaucoup de gens que ça se fasse comme ça. De cette façon-là, mais il reste que, tu sais, moi-même, c'était pas mon préféré, mais en fait, je l'aimais beaucoup dès le départ, mais on dirait qu'avec le temps, j'étais comme ça, on dirait qu'il m'embrouillait. Mais je salue quand même d'avoir tenu le fort, tu sais, c'est une gestion de crise qui dure aussi longtemps, c'est rare, là.
Oui, c'est rare. Puis en même temps, quand t'es à la santé publique, ben il faut que tu t'attendes à faire face à des crises de santé publique. C'est-à-dire que si t'es pas capable de faire face à une épidémie, ben qu'est-ce que tu fais à la tête de la santé publique? D'autant plus que tu parles des masques et tu as tout à fait raison de rappeler ça. C'était au tout début de la pandémie, faux pas là. Et quand tu regardes des plans qui étaient dans les bureaux de la santé santé publique dans les bureaux du ministère de la Santé, où on avait fait des plans il y a plusieurs années de ça, en disant si jamais il y a une épidémie au Québec, de quelle façon on va devoir faire face à ça. La recommandation, je pense, la première recommandation, la recommandation en tout cas prioritaire, la première chose à faire, c'est distribuer des masques. Alors c'était extrêmement étrange de voir Dr. Arruda arriver en disant, ben non, faux sentiment de sécurité. Attends deux secondes, là, dans un rapport de tes propres bureaux, il y a plusieurs années de ça, on disait la première chose à faire, c'est les masques. Alors, c'est quoi cette affaire-là que tu nous arrives avec ça? Donc, on salue son travail.
Ben oui, on parlait juste de se laver les mains à l'époque, se laver les mains, alors qu'il y avait le masque ici. Puis, tu sais, ça a été aussi une semaine où, bon, on est inquiet énormément pour notre système de santé. À chaque jour, on s'inquiète davantage. Et hier, on a senti aussi qu'on changeait de philosophie. Tu sais, moi, j'ai trouvé hier vraiment qu'il y avait un virage avec la conférence de presse où on a moins peur de la contamination dans les écoles. C'est comme là, tout d'un coup, on accepte de vivre avec le virus. On accepte de vivre avec la contamination. Moi, je trouvais hier qu'il y avait quelque chose de vraiment... il faut qu'on continue à vivre malgré tout. Mais en même temps, on sent pas que le système de santé est rendu au bout de ses peines non plus. Donc, moi, je suis un peu curieuse de savoir. Tu sais, hier, là, Sophie, j'étais comme... OK, ouais, dans le fond, c'est vrai, il faut recommencer à vivre. Mais en même temps... C'est-tu parce que je me suis installée comme dans un confort de protection que quand j'ai l'impression que la protection soit moins grande, je suis moins certaine. Je vais te dire, j'étais ambivalente avec moi-même par rapport à ça.
Oui, puis moi, j'écoutais François Legault dire, commencer en disant « on a des bonnes nouvelles », puis là, je me disais, il commence à dire « il va avoir, on sent qu'on va bientôt atteindre un pic dans les cas, puis un pic dans les hospitalisations et tout ça ». Puis je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Tu sais, quand tu parles aux gens dans le milieu de la santé qui disent non, 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 on est complètement débordé. Donc, tu avais un premier ministre qui disait à la fois, il y a un pic dans les... On approche d'un pic dans les hospitalisations, un pic dans les cas, et en même temps, la fin de semaine, ça va être la pire fin de semaine depuis le début. Donc, il nous annonçait à la fois la lumière au bout du tunnel et le train qui s'en venait dans le tunnel. C'était vraiment très... particulier. Marie-Claude, je pense que quand on va se reparler, toi et moi, lundi, on va pouvoir mieux faire le bilan de comment ça s'est passé en fin de semaine. Mais en effet, on a l'impression qu'on sait pas sur quel pied danser. Mais on sait que lundi, en tout cas, c'est le retour en classe pour les élèves, les étudiants. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Je te souhaite une excellente fin de semaine, Marie-Claude. Puis, tu t'appelles Marie-Claude Barrette, mais je pense qu'en fin de semaine, tu vas t'appeler Marie-Claude Raquette.
Oui, oui, je m'en vais en raquette. Écoute, c'est un peu pour sortir de tout ça. S'arrêter d'être inquiète, parce que moi, je trouve la situation est tellement inquiétante. C'est de mettre ça sur pause, d'avoir des bouffées de bonheur à l'extérieur. J'ai de l'air psychopope, là, mais on dirait que j'ai besoin de ça, là. Tu sais, sortir, ben, comme ben du monde. Je pense qu'il faut essayer de briser notre lassitude, s'habiller chaudement. Parce qu'au Québec, faut s'habiller chaudement pour aimer ça aller dehors et essayer de profiter de tout ça, puis peut-être, tu sais, arrêter d'entendre chacune des nouvelles. Parce que moi, je te dis, hier, je savais plus trop. Je suis contente, je suis pas contente, j'ai-tu développé de l'anxiété, puis je le sais pas si c'était vraiment. Fait qu'on s'en reparlera lundi comment on se sent, mais c'est sûr, peut-être que si t'en fais
bonne raquette.
Ben, merci okay, beaucoup. Parfait. Profitons de l'air.
Exactement. Faisons de l'air. À lundi.
Bon week-end.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Pour fuir les mesures sanitaires très strictes au Québec, il y a de plus en plus de Québécois qui émigrent aux États-Unis ou qui veulent émigrer aux États-Unis. On va parler de tout ça avec Maître Maxime Lapointe, qui est avocat spécialisé en immigration. Maître Lapointe, bonjour.
Bon matin.
Écoutez, c'est important dès le départ de mentionner que vous nous parlez aujourd'hui parce qu'il y a une recrudescence de gens qui vous contactent parce qu'ils veulent émigrer aux États-Unis, mais vous ne prenez pas position vous-même pour ou contre les mesures sanitaires. Je pense que c'est important de le mentionner. Là, vous n'êtes pas associé à aucun mouvement de contestation des mesures sanitaires. Je trouvais que c'était important de le mentionner dès le début. Donc, Maître Lapointe, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans votre bureau au cours des dernières semaines, des derniers mois?
Bon, écoutez, moi, je pratique en droit de l'immigration depuis 2010. Et je suis très visible sur Internet. Quelqu'un qui cherche des conseils en immigration là, sur Google, mon cabinet, disons, à Québec, sort très haut. Donc, au bureau, le téléphone sonne, les courriels à tous les jours pour toutes sortes de demandes. Généralement, des gens qui veulent immigrer aux États-Unis, j'en ai peut-être 3 par année. Là. Et les gens ont un projet concret. Donc, ils vont me dire, je veux aller dans tel État pour tel projet. Mais depuis 10 jours, 2 semaines, j'ai de plus en plus de demandes, et surtout, je vous dirais, là, depuis l'article d'hier, là, des gens qui veulent juste s'en aller, qui n'ont pas de projet concret, mais qui se demandent comment fuir.
Donc, quand vous dites l'article est paru hier, c'est qu'il y a eu un texte donc sur le site de Radio-Canada, notre diffuseur national, qui faisait état de ce mouvement-là avec différentes entrevues avec des gens qui veulent en effet aller s'établir aux États-Unis. Donc, vous nous dites il y a plus de gens qui vous contactent suite à cet article-là. Mais avant, vous aviez déjà donc une recrudescence de cas. Les gens qui vous appellent, vous dites le projet est pas clair. Donc, en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent pas.
Ben, c'est exactement ça. Donc les gens, évidemment les gens, les courriels sont très courts. Là. Les gens m'écrivent, je veux savoir comment partir du Québec ou je veux savoir comment immigrer aux États-Unis. Disons, c'est toujours un peu dans ce vocabulaire-là, disons. Puis je dois vous avouer, là, c'est une pratique que je ne fais pas dans mon cabinet. Là. Moi, je fais de l'immigration canadienne. Donc je prends pas les dossiers. Je prends pas les informations sur l'âge des gens, leur niveau de scolarité, leur emploi, mais ce que je vois, c'est qu'au travers de toutes les demandes d'immigration que j'ai dans mon bureau à semaine longue, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur comment aller vivre aux États-Unis.
Parce que il y a ce sentiment-là, parce qu'aussi, dans les médias, on voit beaucoup d'images, par exemple, je prends l'exemple de la Floride, par exemple, on voit, il y a évidemment les snowbirds qui sont là-bas quelques mois par année, mais on voit les mesures là-bas qui ont l'air d'être quasiment inexistante, c'est la belle vie, on peut aller manger au restaurant, on peut aller tu sais les commerces et tout ça, il y a l'air d'avoir très peu de restrictions. Puis quand on compare ça avec le Québec où on se dit bon ben là jusqu'à lundi, il va y avoir un couvre-feu, on n'a pas le droit de recevoir des gens chez nous, les restaurants, les cinémas, tout est fermé. C'est sûr que ça peut avoir l'air attrayant, mais c'est compliqué, un processus d'immigration. Aller immigrer aux États-Unis, c'est très complexe.
Ah, absolument. Et c'est comme immigrer au Canada, au Québec ou en Europe. L'immigration, c'est un privilège, là. C'est pas un droit. Donc, évidemment, sur le nombre de demandes que j'ai de consultations, je sais très bien que si j'avais l'expertise pour amener les dossiers à terme, 9 sur 10 ne se qualifieraient pas. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour demander un permis de travail aux États-Unis, il y a une catégorie pour des entrepreneurs, donc des gens qui viennent créer de la richesse. Le Canada, le Québec a aussi des programmes similaires. Sinon, c'est des programmes pour des salariés, donc pour démontrer aux instances gouvernementales que l'employeur local n'est pas capable de combler sa pénurie de main-d'œuvre avec des employés sur le territoire. Au Canada, au Québec, moi, j'ai travaillé à Hong Kong, c'était les mêmes critères. Il fallait montrer qu'on avait absolument besoin d'un avocat québécois à Hong Kong. Donc, aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, ça passe par un employeur, et c'est pas facile, évidemment. Ou sinon, c'est pour des gens d'affaires, une clientèle qui viendrait créer un apport économique pour le pays.
Donc, c'est les gens ont cette espèce de rêve-là de se dire « bon, mais ça va être mieux aux États-Unis », sauf que les États-Unis ils vont pas leur ouvrir la porte en disant « ah, vous trouvez que nos mesures sont plus légères chez nous, venez-vous-en », ou « vous trouvez qu'il fait plus chaud ici, venez-vous-en », c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y a cette fébrilité-là où les gens pensent que ça va être mieux aux États-Unis, puis paradoxalement, vous recevez aussi des demandes de gens qui, au contraire, veulent immigrer au Canada. Donc, ça veut dire que le Canada est attrayant aux yeux de beaucoup de gens aussi?
Ben, écoutez, moi, je vends le Québec à l'international depuis 2010. Donc, je suis habitué de vanter, disons, les avantages du Québec. Puis, généralement, j'ai pas à le faire parce que on est tous d'accord que, dans une très grande mesure, c'est une destination qui est fort attrayante à comparer à la plupart des pays du monde. Par contre, cette semaine, je me suis fait dire par un client en France qui m'a dit « Oh, mettre la pointe, vos mesures sanitaires sont pas attrayantes actuellement. » Puis j'étais obligé de dire à la personne que je n'étais pas en désaccord avec ce qu'il me disait. Puis, mais ça m'arrive très peu. Mais actuellement, on sent l'effet aussi à l'immigration canadienne, si vous me permettez. Mm-hmm. On le voit dans les médias, il y a beaucoup de gens qui sont au Québec, des Français entre autres, qui veulent quitter vers le reste du Canada parce que les politiques d'immigration sont plus souples au Canada qu'au Québec. Là, on rajoute à ça les mesures sanitaires qui sont plus contraignantes au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, les flux migratoires, peu importe vers où ils vont, je pense qu'il faut les adresser. Donc, moi, c'était le but de ma contribution, disons, au reportage de Radio-Canada, c'est-à-dire, écoutez, moi, je suis un professionnel de l'immigration et je sens une surchauffe au niveau des États-Unis. Et aussi, mais je commence à me faire dire, oh, là, le Québec, on est peut-être moins sûr qu'on veut venir immigrer ici. Donc, on met tout ça ensemble, puis il y a des questions à se poser, puis si la réponse est liée, selon moi, intimement aux mesures sanitaires.
Ça, c'est drôlement intéressant. Donc, je reviens sur ce que vous disait la personne, le Français, qui voulait éventuellement immigrer ici, puis qui trouvait que, à cause des mesures sanitaires, tout d'un coup, le Québec, qui lui semblait jusque-là attrayant, lui apparaît moins intéressant. Ça, c'est quand même si c'est juste un individu, il reste quand même que le message qu'on envoie le Québec, c'est que venez-vous-en ici, puis vous n'aurez pas le droit de faire grand-chose, finalement.
Ben, on est tous d'accord que c'est des mesures qui sont temporaires, mais au niveau des mesures qui sont permanentes, puis si vous me permettez là, de dresser ce sujet-là rapidement,
allez-y.
C'est les délais de traitement à l'immigration au Québec versus dans le reste du Canada incitent les gens à aller immigrer ailleurs au Canada. Donc le Québec se prive d'une main-d'œuvre travaillante francophone qui va choisir des délais d'immigration plus rapides.
Ça, c'est... Donc, comment on fait à ce moment-là? On doit faire en sorte que le Québec soit plus attrayant. Donc, il faut que les processus administratifs soient allégés au Québec pour qu'on puisse retenir ces immigrants-là ou les attirer?
Ben, pour les alléger, le Québec a le droit de sélectionner les candidats sur les critères qu'il veut bien développer. Puis la résidence permanente, c'est toujours traité par le fédéral. Le problème, là, c'est pointu, là. C'est dans le plan d'immigration du Québec. Le Québec dicte au fédéral sa cible de dossier à traiter par année. Exemple, pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Là, donc, mm-hmm. Si le Québec dit au Canada, traite-moi 5000 dossiers par année, ben, le fédéral va le faire. Mais si il y a 15 000 dossiers en attente, ben, ça va prendre 3 ans. C'est mathématique. Donc, c'est le Québec qui doit, dans son plan d'immigration, augmenter ses seuils de gens qui, par ailleurs, ont déjà été sélectionnés par le Québec. Il y a la sélection par le Québec, l'admission par le fédéral. Mais la cible d'admission par le fédéral, elle est dictée par le Québec. Et ça, c'est des concepts que le gouvernement semble pas comprendre. Donc, l'inventaire de dossiers, les délais de traitement qui rallongent sont causés par le Québec.
C'est absolument fascinant. Et quand vous dites que ce flux migratoire-là fait en sorte que finalement on va se retrouver perdant, c'est parce que les autres provinces au Canada sont peut-être plus accueillantes ou en tout cas que c'est plus intéressant. Donc comment vous faites vous si vous êtes justement spécialisé en immigration, comment vous arrivez à convaincre les gens que c'est une bonne chose de venir de venir immigrer ici si justement il y a des mesures qui sont moins attrayantes?
Ouais. Ben, je vous dirais, c'est de plus en plus difficile. Premièrement, il y a des programmes d'immigration du Québec qui sont fermés depuis plusieurs années, qui fonctionnaient quand même, qui avaient un certain impact. Là. Je pense en fait au programme des entrepreneurs. Le programme des investisseurs a des défauts, mais avec quand même certaines qualités évidentes. Donc, il y a des programmes qui sont juste fermés. Pour les délais de traitement, moi, ce que je dis aux gens, c'est écoutez, là, vous êtes au Québec, allez pas faire votre vie en Ontario juste pour sauver un an de délai de traitement. Si votre vie est ici, tant que vous avez un permis de travail qui vous permet de rester au Canada, les délais de traitement de résidence permanente, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez l'avoir. Mais je le vois, ça c'est depuis 6 mois, là, les gens m'appellent, je veux aller vivre en Ontario, ailleurs au Canada, c'est trop long ici. Donc moi j'essaie un peu de les rassurer en disant que oui, vous avez un numéro de dossier, ça va fonctionner, ça va prendre le temps que ça va prendre, puis j'essaie de faire des sorties médiatiques dès que je peux justement pour dire, faut accélérer les délais de traitement, puis la balle est dans le camp du Québec. Merci de me donner l'opportunité de le faire avec vous, là. Donc, moi, je fais vraiment de mon mieux pour améliorer la sélection et la rétention au Québec. Ça veut dire quoi? Sélection, c'est est-ce que les programmes d'immigration sont performants? Rétention, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens ne quittent pas vers d'autres pays, d'autres provinces? Pour le sujet du jour de nos gens qui veulent partir aux États-Unis, c'est des mesures temporaires. Oui, ils peuvent entrer aux États-Unis avec un statut temporaire. C'est probablement ce qui va arriver. C'est peut-être un peu des nouveaux snowbirds aussi au niveau social avec, vous savez, le télétravail, la pandémie, ça a changé.
Voilà.
Les habitudes des gens, moi, je suis pas là pour me prononcer. Je fais juste quantifier la mesure là, pour dire il y a une hausse, mais c'est nouveau. Puis je vois ce matin encore, j'ai eu 5 téléphones de gens qui veulent émigrer aux États-Unis. J'ai des consœurs qui m'ont écrit, des avocats qui m'ont dit « Veux-tu nous envoyer tes dossiers si tu n'as pas l'expertise? »
Donc, il y a vraiment ce mouvement-là. Puis j'aime bien l'expression que vous utilisez, dire des nouveaux snowbirds, parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a toute une catégorie, pas tous les métiers, évidemment, mais il y a beaucoup de métiers, ce qu'on appelle les technomades, c'est-à-dire les techno-nomades, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être sédentaire, on n'a pas besoin d'être installé à un endroit, on peut travailler d'à peu près n'importe où à travers le monde, donc pourquoi pas le faire dans un endroit où il y a moins de restrictions sanitaires. En même temps, il y a sûrement une catégorie de gens qui se préparent des mauvaises surprises, parce qu'aux États-Unis, oui, peut-être que les mesures sanitaires sont moins présentes, mais il y a aussi toutes sortes de mesures sociales aux États-Unis, hein, je veux dire, le système de santé, ça coûte extrêmement cher, les assurances. Il y a plusieurs États où, par exemple, le droit à l'avortement est pas un droit acquis. Il y a quand même des mesures aux États-Unis qui nous font penser à deux fois avant d'aller immigrer là-bas. Maître Maxime Lapointe, je vous rappelle que vous êtes avocat spécialisé en immigration, donc merci d'être venu analyser ce mouvement-là avec nous aujourd'hui, et surtout parler de façon plus globale de l'immigration au Québec et de l'impact que ça peut avoir. C'était très intéressant comme discussion. Merci beaucoup.
Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir été là. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde. Merci à Julien Boutier qui a fait un super beau boulot cette semaine. C'est notre stagiaire en recherche. Je vous remercie, vous, d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une magnifique fin de semaine, même si on va avoir très, très froid. Très, 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 très froid. Mais vous allez avoir Cube Radio pour vous réchauffer, puis on se retrouve lundi.
Cube Radio.